Rosny est né, le pendu. « Je vais mourir un peu jeune, » dit Mochard, l'assassin. « Mais là, vraiment, j'en ai eu du plaisir dans l'existence. Depuis 12 ans, je rôtis le balai aux frais des bourgeois. Et puis, j'aime ma profession. Un beau vol, un assassinat proprement exécuté. » Il n'y a encore que ça de tel pour vous mettre le cœur en gommette. Je vous en ai envoyé des types dans l'autre monde avec mon marteau et mon nœud coulant. Car, sauf quelques cas qui se présentaient par la gauche, j'ai toujours eu une préférence pour ces jolis outils-là. Un maître coup sur le crâne, une bonne prise par la corde. Ça vous a je ne sais quoi de farce et de solide qu'on ne peut demander ni à cet aboyeur de revolver, ni à ce sacré bouchard de surin. Sans blague, monsieur. J'ai défoncé une dizaine de cervelles et ôté le souffle à presque autant de gorguettes. Mais dans toute ma carrière, je ne crois pas avoir éprouvé une satisfaction semblable à celle de ce soir de décembre où j'ai fait déguerpir l'âme du curé de Rozay-le-Carloup. C'est un gros village, là-bas, sur la Saône, un peu à l'écart. Le presbytère, une bonne maison de pierre bleue, s'enfonce dans un jardin bien caché par des murailles et à quelque distance des autres maisons. Si j'y entrais par hasard un soir, qu'il me restait tout juste une pièce de 20 sous au fond de la poche. Tout était blanc et gelé, monsieur. La route, les pierres et les arbres. Il soufflait un petit vent du nord, si dur que les gens ne se risquaient même pas hors de leur cuisine. Le presbytère avait de bonnes fenêtres jaunes, de lumière, et lorsque j'y fis mon entrée, je ne savais pas encore très bien si j'allais risquer un coup ou demander l'aumône. L'absence de chien commença à me faire pousser des projets, puis la vue du curé à travers le tulle d'un rideau, du curé tout seul à sa table. Et finalement, le fait que la servante, probablement un peu sourde, ne tourna pas même la tête lorsque je poussais la porte de la cuisine. Vrai, monsieur, elle ne pouvait pas mieux se présenter. Elle était penchée, la tête en bonne lumière, à vous mettre l'eau à la bouche. Oh, j'étais déjà, je levais le marteau dans la main, donc je le lève, et ouf, je la bats. Ce fut vraiment un coup magnifique. Le crâne était fendu comme un pot, la cervelle et le sang coulaient tout de suite. La cuisinière tomba de tout son bloc d'en faire plus de bruit que si elle avait fait un couple de pas sur le pareau. J'eus alors le sentiment que j'étais maître de la situation. Oh, j'eus un homme de flair. Pourtant, j'attendis un moment et je dressai l'oreille. Je jetai un regard sur le jardin. Rien ne bougeait, sinon le couteau et la cuillère du curé, dont j'entendais le bruit sur la faïence. Ça va marcher, me dis-je. Je disposais le marteau, puis mon noeud coulant, et d'un geste vif, un geste sans bavure, j'ouvris la porte de la salle à manger qui voisinait avec la cuisine. Le curé, monsieur, était en train de découper une bécasse. Il leva la tête à mon entrée et, il faut lui rendre cette justice, il devina immédiatement qu'il était en étrange danger. Oh, s'il avait été aussi résolu et aussi pratique qu'il était perspicace, il pouvait bien se sauver. Car, quoiqu'un peu gros et sans doute un peu poussif, il avait du muscle. Mais c'était un homme de peu de courage, tellement attaché à la vie qu'il en devait, dans un moment de défi, perdre la force de la défendre. Je vis cela d'un clin d'œil. Il sursauta, le sang abandonna son visage, ses oreilles blanchirent et ses gros joues parurent lui tomber dans le cou. Et puis ses yeux, tout de suite égarés, tout de suite fous, et sa bouche de cauchemar, dont il ne pouvait pas tirer le moindre son. Oui, je compris, sans aucune erreur possible, que ce curé allait être plus faible encore entre mes mains qu'un poulet sortant de sa coquille. Aussi demeurai-je une bonne minute à le considérer, il n'y a rien de plus excitant qu'un visage décomposé par l'épouvante. Puis je lui dis, pour corser le plaisir, « Ayez courage, mon père. Je ne peux pas signer votre grâce. » Il eut la force de se jeter à genoux et de tendre les bras vers moi. Il réussit même à éjaculer une sorte de supplication. « Pas mèche, murmurai-je, j'ai déjà descendu la bonne. Je vais attirer, mon père. » Il fit un mouvement comme s'il allait fuir, mais il n'avait plus de jarret. Je m'approchai donc doucement de lui, lui passai le nœud coulant, où il se débattit, mais sans faire un geste de défense active. J'ajustai donc le nœud, et profitant d'une espèce d'anneau de suspension, j'eus l'idée de pendre mon homme au lieu de l'étrangler. L'opération fut laborieuse. Toutefois, après 3 minutes, ça y était. Le curé se balançait dans le vide et à peine quelques centimètres de distance séparait ses pieds du plancher. D'après la conformation de son cou, oh, le bonhomme devait mettre pas mal de temps à agoniser. Si j'avais été pressé, cette circonstance m'eût forcé d'intervenir, mais je n'étais pas pressé. J'avais le sentiment je dirais même la certitude qu'aucun fâcheux ne viendrait troubler notre tête-à-tête. Je m'installai donc à table, je découpai la bécasse en l'arrosant d'une belle rasade de vieux vin rouge, et je goûtai là un plaisir aussi délicieux qu'intime. Le brave curé se balançait au bout de la corde, les yeux lui sortaient de la tête, son visage noircissait et gonflait. Il avait des trépidations et des convulsions qui constituaient, pour un amateur, le plus fascinant des apéritifs. Ah, le bougre, il avait la vie dure. J'ai eu le temps de finir la tasse, d'avaler une crème au caramel et d'ajouter, d'allumer une bonne pipe. Le camarade expira que lorsque j'eus mis fin à la seconde tasse de thé, café. D'ailleurs, je n'eus pas que la satisfaction immédiate. Le secrétaire, un petit secrétaire patriarcal, dont la serrure céda comme du beurre, me gratifia de deux beaux fafios de 1500. Et tant en Napoléon qu'en pièces blanches, un beau sac de 1245 francs. On arrêta, je ne sais plus quelle bête de cheminot, qui vous aurait bel et bien été haché par la machine à Dreyfler, si l'admirable Papa Grévy n'avait signé sa grâce.